sont plus ou moins en cours de régularisation, du coup plus ou moins basanés j'imagine, ou noirs, ou je sais pas quoi, ont été blessés et du coup ont été ensuite prises en charge par les pompiers, elles sont plus en danger, mais du coup... À la suite de cet événement, il y a pas mal d'assauts, de collectifs, etc., qui constatent qu'il y a une très très grosse montée des actions d'extrême droite qui se développent à Clermont. Et avant-hier, le 20 janvier, la personne en question, là, qui s'est fait choper, est passée en comparution immédiate. Alors, si vous voyez le genre, le prévenu est en mode toile d'araignée tatouée sur le front, cheveux coupés très courts sur le crâne. Il a 20 ans, le proc avait requis 4 ans de prison ferme. Il a écopé de 2 ans de prison ferme pour violence volontaire avec arme.
Hier dans l'après-midi, il y a eu l'occupation du siège du CNIS, donc du Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants, par une centaine de paysans paysannes à l'appel de la Confédération Paysanne, donc contre la loi dite sur les contrefaçons. Alors du coup, pour expliquer un petit peu, d'abord, vite fait, le GNIS, c'est le Groupement National Interprofessionnel des Semences. En fait, c'est supposé représenter toute la filière semences, tout ça en France. Et c'est surtout le porte-voix de l'industrie semencière à la française. Et qui a pour particularité d'avoir aussi une mission de service public, notamment de contrôle sur les échanges de semences en France. Donc c'est pour ça que c'était cette structure qui était visée, qui a été prise en otage, selon leurs termes à eux, par des paysans et paysannes. Et en fait, donc c'était par rapport à une loi qui passe devant l'Assemblée nationale le 4 février. Et en gros, pour comprendre un petit peu cette loi sur les contrefaçons, quel rôle ça joue dans l'agriculture, il faut replacer dans un contexte d'arsenal répressif contre les droits des paysans et paysannes autour des semences qui durent depuis environ quelques années, on va dire. Ça a commencé pour les événements récents en 2011 avec une loi qui restreint surtout les droits de ressemer sa récolte, ce qu'on appelle des semences de ferme, et puis les droits d'échanger des variétés qui ne sont pas inscrites dans un catalogue officiel et qui ne sont pas protégées par des droits de propriété intellectuelle. Donc ça, c'était en 2011. Ensuite, les socialistes ont promis de l'abroger, mais ils ne l'ont pas fait et ils ne l'ont pas encore appliqué. Mais voilà, donc elle pèse un peu comme ça, elle devrait être appliquée un jour, mais on ne sait pas quand. Après ça, il y a eu un règlement européen qui est au Parlement, qui est discuté au Parlement européen actuellement, qui a priori pourrait renforcer certains droits des paysans, mais pour l'instant ne le fait pas et restreint plutôt leurs droits et élargit ceux de l'industrie, notamment à diffuser des OGM ou d'autres biotechnologies végétales comme ça un peu partout sans trop de contraintes pour eux. Voilà, donc ça c'est discuté en ce moment. Il y a eu un rassemblement à l'appel de la Via Campesina à Bruxelles lundi à ce propos. Pareil, c'est en flottement, c'est en train d'être discuté. Visiblement ça va pas dans le bon sens, mais rien n'est fini. Par là-dessus, il y a eu récemment l'adoption en France par le Sénat, et du coup ça doit passer aussi à l'Assemblée, du brevet unitaire européen, donc un peu une normalisation des brevets dans tous les pays d'Europe. Et en fait, sur l'agriculture, ça ouvre la possibilité, jusqu'à maintenant on brevetait que des espèces de procédés industriels, sans rentrer dans les détails. Maintenant on pourrait breveter plutôt des caractères sur les animaux et les plantes, comme une résistance à une maladie ou des choses comme ça. Donc ça ouvrirait la porte à ça, et donc ça ouvrirait la porte aussi à se retrouver avec dans ces champs et dans des fermes des trucs qui sont brevetés simplement parce que il y a eu de la pollinisation par le vent, il y a eu des échanges et des choses comme ça. Et par-dessus tout ça vient cette loi sur les contrefaçons, qui est une loi ils appellent ça de procédure. Donc en fait ça dit rien sur le fond, simplement ça vise à augmenter la répression et donner plein de moyens aux douanes pour lutter contre la contrefaçon, que ce soit la contrefaçon de sacs Vuitton, de cartouches de cigarettes ou de semences ou de préparations préparation naturelle type purin d'ortie ou des choses comme ça qui sont classées dans des choses pharmaceutiques quoi en gros. Du coup en fait voilà, cette loi elle passe début février et ça traite que de l'aval, on va dire, de la répression, mais c'est excitant, y compris dans le domaine végétal et animal, que les paysans qui sont en possession de choses qui sont protégées par des droits de propriété intellectuelle, brevets ou autres, sans avoir contribué à ces éléments protégés, donc sans les avoir achetés ou etc. Donc y compris quand ils ont ressemé simplement leur récolte, et ils pourraient être considérés comme des contrefacteurs et donc risquer des amendes, de la prison, risquer aussi de faire face aux douanes qui auront le droit d'aller les voir en loose day pour se faire passer pour des acheteurs pour essayer de les coincer, enfin tout un tas d'arsenal répressif comme ça. Voilà, donc c'était contre ça, entre autres, que hier soir il y a eu cette occupation du siège du CNIS. Et ce que ça a donné pour l'instant, c'est que le ministre a promis que, en tout cas les semences, pas forcément la question des animaux ni des préparations naturelles, mais qu'en tout cas les semences seraient, enfin quoi, les amendements proposés par la conf notamment serait pris en compte et serait accepté début février. Donc il a pris cet engagement là, mais en gros c'est pas sûr qu'il le tienne. Et donc a priori il y a possibilité aussi sur tous les autres aspects qu'il se passe encore des choses dans les temps à venir autour de ça quoi. That's suicide, like Annie and Cleopatra. Timberline, she was on a date with the Jones. Love's lady was lost, a woman on her own. She needed two gentlemen of her own.
Voilà, c'était l'interview d'une personne que nous ne nommerons pas, mais qui fait une émission sur les luttes paysannes à Radio Canu.
En fait, on peut même nommer l'émission, ouais, c'est donc les paysans et paysannes dans les luttes des classes, et celle de jeudi prochain, c'est-à-dire jeudi dans une semaine, puisque c'est une émission quinzomadaire, reviendra sur ce rassemblement.
Et on va commencer un petit diptyque sur les luttes kurdes. La première nouvelle et la plus développée, c'est au canton de Jazira, du Kurdistan syrien, qui a déclaré hier son autonomie démocratique. Ce canton kurde s'est donc doté de ministères et du coup a trois langues officielles, le kurde, l'arabe et le syriaque. Cette déclaration est intervenue un jour avant la conférence internationale sur la Syrie, dite Genève 2, où les Kurdes ne sont pas invités. Jazira est l'un des trois cantons du Kurdistan syrien qui ont été annoncés récemment. Alors Genève 2, dont vous avez peut-être entendu parler dans les autres médias, si vous écoutez d'autres radios, a effectivement débuté aujourd'hui. Il s'agit de la seconde table ronde qui espère trouver une solution au conflit syrien. Elle a réussi à avoir lieu un peu in extremis après moult négociations diplomatiques, car il y a des gens qui ne voulaient pas se voir, dirait-on, nous a-t-on dit. En gros, il y a une quarantaine de représentants qui y participent, dont les représentants de Assad et une délégation des opposants exilés au régime de l'armée syrienne libre. Bon, ça a l'air qu'il y a vraiment peu de chances qu'il en ressorte quelque chose de constructif, si ce n'est peut-être que des ONG puissent rentrer dans certaines villes ou certaines zones assiégées et interdites maintenant pour y acheminer de l'aide humanitaire, ce qui serait déjà vraiment pas mal. En plus, même si les invités en Suisse là arrivaient par miracle à s'entendre, mais c'est très mal parti aujourd'hui, ils ont fait que s'embrouiller si j'ai bien compris. De toute façon, ils représentent quasiment plus rien sur le terrain, vu que l'opposition exilée est majoritairement un peu une espèce de petite bourgeoisie syrienne, en tout cas ceux qui avaient assez de thunes pour quitter le pays. Les gens sur place, eux qui sont du coup forcés de combattre et de subir la guerre, ne suivent vraiment plus trop leur mot d'ordre, à ce que j'ai cru en comprendre. Et en plus, l'opposition est super composite. Moi, j'ai là, par contre, beaucoup, beaucoup de mal à comprendre. C'est plein de groupes assez éloignés politiquement qui sont uniquement d'accord pour dégager Assad, mais qui se tirent dans les pattes un peu tout le temps et qu'on mettra non plus jamais autour d'une table, a priori. En tout cas, s'il y a issue, il y avait. Bien entendu, tout le monde n'est pas reconnu et invité aux discussions de toute façon. En tout cas, c'est le cas des Kurdes notamment, et du coup, c'est sans doute loin d'être un hasard s'ils font cette annonce d'autonomie juste au moment de l'ouverture de ce Genève 2. Bien que ça fasse un bout de temps qu'ils s'activent à s'organiser sur le terrain, à plein de niveaux du coup très concrets, du coup organiser leur armée, les coopératives alimentaires, des écoles, etc. etc. depuis maintenant 2 ans, il me semble à peu près. Le canton de Jazeera sera donc constitué d'un parlement avec genre 101 sièges, 23 ministères, etc. Le président kurde du canton a deux vice-présidents arabes et syriaques. Il y a trois femmes dans le gouvernement. Chaque ministère doit être représenté par les trois peuples. Du coup, s'il y a un ministre kurde, par exemple, il doit y avoir deux vice-ministres arabes et syriaques. Le président du canton, Akram Asso, a déclaré que l'autonomie démocratique est basée sur la fraternité entre les peuples et la démocratie, ce qui semble un peu surprenant, vu l'ambiance syrienne. Et les deux autres cantons, Kobani et Afrin, se préparent aussi à déclarer leur autonomie administrative. Il semble que le Kurdistan syrien soit une des rares zones un peu stables et un peu sûres dans le pays, malgré des attaques de groupes affiliés à Al-Qaïda, que ce soit des pro-régimes ou des anti-régimes. C'est eux qui sont plus souvent soutenus par l'Occident et notamment la Turquie. Le conflit a débuté, je le rappelle, en Syrie en mars 2011, dans la lignée des soulèvements du monde arabe, et il aurait sans doute fait plus de 130 000 morts selon l'ONU. Et lutte kurde toujours donc, mais en France cette fois, un militant kurde a été placé en garde à vue hier, le mardi 21 janvier à Marseille, après une perquisition menée chez lui par les flics français. Cette opération intervient juste avant la visite de Hollande en Turquie qui doit avoir lieu les 27 et 28 janvier prochains. Alors on peut rappeler quand même qu'en décembre 2013, la justice française avait ordonné la dissolution de la Maison du Peuple kurde à Marseille, sous l'accusation d'avoir financé le PKK, c'est-à-dire le Parti des Travailleurs du Kurdistan. Le tribunal de Paris avait également condamné 10 Kurdes à des peines de 6 mois à 3 ans de prison. Depuis 2007, il y a près de 250 Kurdes qui ont été arrêtés sur le sol français pour des motifs politiques. Ces arrestations sont souvent, d'ailleurs, étrangement, intervenues avant ou après des rencontres entre les deux pays. Ça sent un peu le business, je crois.
Alors, en France, l'Assemblée nationale renforce le droit à l'IVG. C'est un peu ce qu'on a pu entendre hier et aujourd'hui. Les députés ont voté, c'était hier soir, la suppression de la notion de détresse qui était inscrite dans la loi Veil sur le recours à l'interruption volontaire de grossesse. Et voilà, ce truc a été voté malgré une opposition farouche des plus rétrogrades députés de droite et d'extrême droite. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été unanimes non plus. Bon, du coup... du côté de l'UMP, la majorité des orateurs qui étaient bien souvent des membres de ce truc qui s'appelle l'entente parlementaire pour la famille, des gens qui ont été très actifs à l'époque, enfin il y a un an là, au moment des discussions sur le mariage pour tous. Donc ces gens-là ont plaidé contre la modification de cette loi qui remet en cause, paraît-il, l'équilibre de la loi Veil et qui conduit à une banalisation de l'avortement. Une quinzaine de députés de l'UMP a même appelé à voter pour le déremboursement de l'IVG par la Sécurité sociale. Bon, cet amendement a quand même été massivement rejeté et même le président du groupe UMP a précisé qu'il était contre. La gauche a massivement voté pour la modification, c'est très bien. Donc on rappelle, hein, cette modification, c'est juste que jusqu'à hier, dans la loi sur l'IVG, il fallait que la femme qui avorte soit en détresse. Alors, on peut toujours se féliciter de cette modification symbolique, c'est toujours ça de pris, mais enfin quand même, cette histoire de détresse, enfin, tout le monde s'en foutait depuis longtemps, longtemps, longtemps.
Alors, c'est un terme aussi subjectif au niveau juridique.
C'est ça. Il faut savoir quand même que ce droit à l'IVG, hein, ça a été, c'est possible depuis 1974, mais c'était pas du tout simple en 1974. Ça a été un long combat, à la fois combat vraiment de lutte pour faire reconnaître des trucs, et à la fois des avancées juridiques petit à petit. Hein, c'est que depuis 2001, par exemple, qu'on a supprimé l'entretien obligatoire avant l'IVG, où il fallait se justifier. Mais bon, voilà, maintenant, on n'a même plus besoin d'être en détresse, c'est toujours ça de bien. Mais si on en parle, on est quand même obligé de rappeler un peu que le problème de l'IVG, aujourd'hui, c'est plus un problème de la loi ou de la manière dont elle est foutue, hein. C'est vraiment un problème de moyens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de médecins formés. De toute façon, ils sont mal payés, alors les étudiants en médecine, a priori, n'ont pas trop envie de s'orienter là-dedans. Il y a des hôpitaux qui ferment, les services IVG sont tout pourris. Les délais d'attente sont de plus en plus longs. Du coup, enlever d'une loi un mot que tout le monde avait oublié de toute façon, c'est bien, mais rendre l'avortement simple et accessible, ça serait encore beaucoup mieux.
Vas-y, dégage, Rebel Revolution Time. Vas-y dégage. Sammy Dobez, Mankola Wadi, Sukondana International. Vas-y dégage. Vas-y dégage. Vas-y dégage. Prêt à s'immêler, si pour les sacrifices, dis-leur qu'on va s'immoler. Qu'on boit zizi en vérité, nous on n'a rien à perdre. Car ce qu'on a en vérité, bah c'est une vie de merde. On a beau dire, répéter, t'en as rien à faire. Tu gères tes deals, ta mafia, tu gères tes affaires. C'est pour ton clan, ton parti, ta famille et ton fils. Et après toi, c'est le chaos, je vois très bien la bise. Le peuple n'aura peanuts, le trésor peanuts. Et dans les caisses de l'État, tu laisses peanuts. T'as volé l'or, tout l'argent. L'argent est à vider, les comptes la nuit, même la plus longue, on est le jour, on va régler nos comptes. Dégage. Voudrais qu'on se taise. Comment se taire, ça fait si longtemps qu'on nous pèse. La psyche crève et dans les rues tout le monde en grève. C'est comme au Caire, sur la place y'aura pas de trêve. Tire sur la foule, que ton peuple tombe. La mort on l'apprivoise, à la longue on s'est creusé des tons. L'armée, les généraux, les blindés ne feront pas céder. Fuck tes pompes, rien n'arrête un peuple décidé. Trop c'est trop, on en démarre, on dit trop c'est trop. La révolution voit le jour, parce que trop c'est trop. Sans embâche, bavardage, pas de marchandage. Ferme la page, plus bagage, démarrage. Vas-y dégage. Vas-y dégage.
C'était Didier Awadi et Sammy Dobez qui chantaient Dégage.
Ils reviennent, ils sont très énervés, ils s'en prennent cette fois à Sony, ce sont les Anonymous.
Leurs armes, des ordinateurs. Leur but, déstabiliser les gouvernements avec le site Wikileaks. Vider vos comptes bancaires. Paralyser des centrales nucléaires avec des virus. Les pirates.
Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo. Comment s'en servir? Comment maîtriser ces nouveaux outils de communication?
On les dit capables de détruire n'importe quel système informatique. Pourtant, on murmure aussi que ce sont eux qui les ont construits. On les appelle des hackers.
Alors, aux États-Unis, 13 personnes sont soupçonnées d'avoir détourné plus de 2 millions de dollars, le tout sans violence, sans effraction, seulement avec de la bidouille électronique. C'est pour ça qu'ils se retrouvent dans cette chronique. En gros, ils ont utilisé des skimmers. Alors là, tout le monde se dit, c'est quoi ce truc ?
C'est quoi des skimmers ?
Alors, vous avez sûrement entendu parler dans les journaux, c'est des dispositifs qu'on rajoute sur les distributeurs automatiques de billets ou sur des bornes automatiques de stations essence. En gros, n'importe quoi, vous mettez une carte bancaire et où vous tapez votre code PIN. Comment ça marche? En général, ça se positionne par-dessus la fente où on insère la carte et par-dessus le clavier où on tape son code PIN. Tout ça est fait de manière très pro, de telle manière que l'utilisateur n'y voit que du feu et il pense que c'est le truc d'origine, quoi. Le dispositif mis au niveau de l'insertion de la carte permet de lire les données présentes sur la bande magnétique et celui sur le clavier permet d'enregistrer le code PIN. Une fois que vous avez introduit votre carte, vous tapez votre code PIN et retirez votre argent. Vous vous rendez compte de rien, sauf que toutes les données de votre carte sont enregistrées. Il suffit ensuite au hacker de venir chercher son appareil et de transférer toutes les données bancaires sur son ordi. Et avec toutes ces données, on peut fabriquer comme un peu en gros un clone de votre carte bancaire et ensuite aller sur n'importe quel distributeur en masquant son visage parce qu'il y a des caméras et retirer l'argent sur votre compte. Malin, non ? Bon, la bande des 13 était particulièrement bien organisée, déjà parce qu'ils avaient rajouté aux skimmers le Bluetooth, ce qui leur permettait de récupérer les informations sans contact, ce qui réduisait considérablement les chances de se faire attraper, et ils ont également fait gaffe à placer l'argent retiré sur plein de comptes différents avec des montants inférieurs à 10 000 $ pour ne pas avoir à justifier la provenance des espèces comme l'oblige la loi aux États-Unis. Entre mars 2012 et mars 2013, ils ont quand même réussi à détourner du coup 2,1 millions de dollars.
Ah ouais.
Pas mal.
Ouais, pas mal.
Ouais. En un an, je veux bien travailler à ce prix-là. Hein. Là où en plus c'est quand même vraiment classe ce genre de piraterie, c'est que la banque est obligée de rembourser ses clients. Ce qui fait qu'on a retiré de l'argent sur votre compte, mais il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Bon, ça nécessite un petit passage désagréable en général au commissariat pour les porter plainte.
Et à la banque aussi.
Et à la banque.
Moi, je kiffe pas à fond.
Ouais, voilà, c'est pas bon, mais quand même, c'est faire œuvre de bienfaisance un peu de faire ça quand même.
C'est vrai.
Voilà, ça fait chier les banques, ça leur coûte plus cher en assurance, et voilà. Malheureusement, dans ce genre d'affaires, quand on a ce genre d'infos, c'est que les gens se sont fait arrêter et risquent très gros. Là, en l'occurrence, sur les 13, 4 sont considérés comme les organisateurs, ce qui veut dire qu'ils vont manger plus que les 9 autres qui sont considérés comme des petites mains. Ils risquent plusieurs années de prison ferme et des sacrés dédommagements. L'autorité d'aviation israélienne piratée. Alors, c'est un groupe de hackers iraniens dénommé The Islamic Cyber Resistance Group, avec mon super accent anglais, qui a annoncé le piratage de cette autorité. En gros, j'ai pas trop compris ce que c'était, mais j'ai l'impression que c'est un peu eux qui gèrent les flux aériens au-dessus d'Israël. C'est-à-dire que c'est eux qui doivent autoriser un avion, tirer un peu.
Mais militaire ou aussi civil?
Civil aussi. Ou peut-être que civil, je sais pas. Les hackers affirment avoir obtenu des informations sensibles et d'avoir eu la possibilité de causer des perturbations. Ils ont eu accès aux itinéraires de vol, aux communications entre les avions et les stations au sol. Ils déclarent ne pas avoir l'intention de tuer des gens, ce qui serait quand même très possible quand on arrive à intercepter des informations comme ça en disant un avion, vas-y, atterris alors qu'il y en a un autre devant. Ils expliquent que ce piratage est en soutien à la Palestine. Ce groupe est connu pour avoir hacké mi-décembre 7 gigas de données à la société saoudienne Ben Laden, ainsi que pour avoir obtenu des informations sur l'armée israélienne et saoudienne. Les Anonymous ont modifié l'accès au site du MIT pour Massachusetts Institute of Technology.
Tu progresses.
Ouais, t'as vu. Hein. En mémoire à Aaron Schwartz, les Anonymous donc ont défacé ce site, comme on dit sur Internet. Le MIT, c'est quoi ? C'est la, pour les gens qui ont fait des camps d'études, vous savez. Pour les autres, je vais vous expliquer. C'est la prestigieuse université d'informatique américaine, en gros. Aaron Schwartz, par contre, c'est qui ? Là, tout de suite, c'est moins drôle. Il s'est suicidé il y a un an car il était accusé d'avoir piraté les serveurs de cette université. En gros, il risquait 15 ans de prison et face à la pression du MIT et de la justice, il a préféré mettre fin à ses jours. C'était également un cyberactiviste qui a lutté contre la surveillance de masse des citoyens et pour la neutralité du web. Il était présent sur la lutte contre SOPA, qui était un vaste programme américain, je dis, parce qu'il me semble que ça a été abrogé, mais un vaste programme américain de surveillance du net. Les visiteurs donc souhaitant se rendre sur le site de l'université du MIT étaient dirigés vers une page intitulée « Le jour où nous retournons au combat ». Et on pouvait lire sur la page « Nous sommes confrontés à une menace qui porte atteinte à l'Internet et à l'idée que chacun d'entre nous vive dans une société véritablement libre, la surveillance de masse. Si Aaron était vivant, il serait sur la ligne de front, la lutte contre un monde où les gouvernements observent, recueillent et analysent chacune de nos actions numériques. » Avec ça, il y a une journée de protestation qui est prévue le 11 février contre la surveillance de masse des États sur les citoyens. Wise as the man that knows a fool. Temp not a desperate man with a jewel. I take from Peter to go and pay full. Sunrise by sin and by virtue fool. What have you made if you gain the whole world? But sell your own soul for the price of a pearl. The world is my oyster and I am starving. I want much more than a penny or a farthing. I've told no joke, I hope you're not laughing. Poet or pauper. Et c'est maintenant le moment de recevoir notre invité. Notre invité, c'est Mathieu, il revient tout droit d'Égypte. C'est celui, à chaque fois qu'on parle d'Égypte, qui est soit c'est directement sa voix, soit c'est notre inspirateur un peu.
Notre envoyé spécial,
à plein de moments. Alors, bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Salut.
Et donc, tu reviens d'Égypte au moment où il y a cette histoire de référendum pour la Constitution.
Tout à fait, je suis même parti d'Égypte au moment même où les Égyptiens rentraient dans les bureaux de vote pour aller voter.
Et alors, comment ça se passait? Les gens allaient beaucoup voter, étaient contents d'aller voter?
Les gens étaient contents d'aller voter. C'était une ambiance hyper bizarre, parce que du coup, c'était grave la teuf, en fait, dans les rues du Caire. Les gens, ils écoutaient... Ils marchaient dans la rue avec la musique à fond et ils mettaient cette espèce de chanson qui est le tube du moment en Égypte, là, qui est une espèce de chanson complètement ridicule qui dure 5 minutes en hommage au général Sissé et à l'armée égyptienne qui protège le peuple égyptien. Du coup, c'est une chanson qu'on entend mais en boucle, en permanence, pendant 3 jours, on n'entendait que ça partout, sur les scooters, dans la rue, dans les bus et tout. Et les gens avaient des drapeaux et voilà. Et puis c'était vraiment, en fait, c'était vraiment une ambiance bon enfant qui était assez curieuse à voir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un moment un peu comme ça de ferveur populaire dans les rues du Caire. Et du coup, et même les gens qui n'allaient pas voter, en fait, il y avait quand même un truc de... Ouais, on était contents, quoi, parce que ça marquait c'était la fin d'un chapitre, quoi, qui se tournait de la révolution et qu'on était contents qu'il se termine et qu'il se termine relativement bien. Il y avait eu quand même plein de menaces de peut-être il va y avoir des attentats ou je sais pas quoi. Il y avait une présence sécuritaire omniprésente. Enfin, il y avait des hélicoptères militaires qui survolaient le Caire en permanence pendant toute la journée et tout ça.
Mais on va peut-être revenir après sur les menaces qu'il y a eu. Mais là, tu viens de parler des gens qui allaient pas voter.
Ouais, du coup. Donc il y a eu quand même, je crois, 38 ou 39% de participation sur ce référendum-là, ce qui, je sais pas, je pense que ça peut paraître pas beaucoup pour des étrangers, même si je sais pas bien si c'est vraiment plus élevé en France, mais en tout cas, c'est plus élevé que le dernier référendum qu'il y a eu pour la Constitution qui avait été mise en place par les Frères musulmans. Du coup, ça, c'est quand même une victoire du régime. Après, c'est moins... Effectivement, c'est pas un plébiscite comme on aurait pu l'attendre. Du coup, dans les gens qui sont allés voter, en tout cas, il y a beaucoup de femmes. Il y a eu des annonces qui ont été faites quelques jours à l'avant pour motiver les femmes pour aller voter. Et les Coptes ont majoritairement voté, oui, bon, comme tous les gens qui ont voté de toute façon, parce qu'il y avait vraiment cette peur des frères musulmans et que l'église copte, pour la première fois de son histoire, a appelé les gens à descendre pour voter et pour voter oui. Mais après, c'est sûr que je pense dans les jeunes en général, sachant que l'Égypte est un pays majoritairement jeune, et les gens... qui sont impliqués plus dans les mouvements révolutionnaires, etc. La plupart ne sont pas allés voter. Et même, je pense aussi, dans toutes les classes sociales, beaucoup de gens ne sont pas allés voter, mais pas forcément parce qu'ils étaient contre ce processus-là, mais juste dans un truc de dire, en fait, on sait très bien ça va être quoi le résultat. Et de fait, voilà, il y a eu 98% de oui. Et voilà, du coup, plein de gens ne sont pas allés voter juste par flemme, en fait. Un truc de dire, en fait, ça ne sert à rien, je ne vais pas aller apporter ma voix pour un truc comme ça.
Mais peut-être pour les auditeurs et auditrices qui n'ont pas forcément suivi, ou peut-être tu pourrais nous en dire plus un peu sur c'était quoi déjà ce référendum exactement, quelle était la question et tout ça.
La question, je crois, c'était êtes-vous d'accord avec le projet de constitution qui avait été préparé? Et du coup, il fallait répondre si on était d'accord ou pas d'accord. Le projet de constitution, donc, c'est une constitution qui a été écrite par un comité de 50 personnes qui étaient censés être plus ou moins représentatifs de la société égyptienne. Bon, c'est toujours un peu... On n'est jamais vraiment complètement représentatif. Et du coup, ce comité-là, il a été mis en place à la suite de la destitution de Morsi, donc le président issu des Frères musulmans qui avait été élu un an avant, qui s'est fait virer suite à la pression de la rue et bien aidé, on va dire, par l'armée qui, quand même, à un moment, l'a foutu à la porte, quoi.
Plutôt que de faire micro-étape par micro-étape et aller-retour, est-ce qu'on reprend à l'arrivée de Morsi au pouvoir, par exemple? Wow. Et puis on se fait un petit... Non, mais ne serait-ce que rapidement, mais pour pas faire plein de flashbacks. Et...
D'accord, alors à l'arrivée de Morsi au pouvoir. Donc, on pourrait recommencer en disant que là, par exemple, dans 3 jours, on va fêter les 3 ans de la révolution égyptienne. Donc, qui a été un soulèvement populaire donc, dans la lignée de plein d'autres pays, qui a abouti donc à la chute de Moubarak, donc le président qui était là depuis 30 ans. Suite à ça, il y a eu une petite période de dictature militaire bien sanglante comme il faut, et qui a abouti quand même par donc ce qu'on a appelé un peu pompeusement et un peu faussement les premières élections démocratiques libres de l'Égypte, qui n'étaient pas très libres d'ailleurs, mais bon voilà. Et donc ces élections ont été officiellement remportées par Morsi, donc un candidat issu des Frères musulmans. Il faut savoir qu'il était opposé à un représentant de l'armée, du coup de toute façon c'était pas un choix vraiment très satisfaisant quoi, pour les révolutionnaires, et que probablement en fait le résultat des élections ça a été un truc de magouille entre les Frères musulmans et l'armée de ok on vous laisse au pouvoir mais vous nous donnez ça, enfin bref. Du coup donc c'était Morsi qui est arrivé au pouvoir, il y a eu quand même un truc de, au début de lui faire confiance, de dire ok en fait on a joué le jeu, on a voté, c'est toi qui as gagné, bon bah voilà pas de bol, c'est comme ça, on va s'en prendre pour les 5 ans à venir, c'est la vie quoi. Et sauf que assez rapidement, donc Morsi, il a cumulé merde sur merde. Il a voulu faire une mainmise des Frères musulmans sur toutes les autorités de l'Égypte. Ça n'a pas marché parce qu'en fait, il y avait encore des révolutionnaires et encore des gens de l'ancien régime qui n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Et où le moment où ça a commencé à sentir mauvais pour lui, c'était en novembre du coup 2012. Où il a voulu, comme il sentait que ça commençait à glisser un peu pour lui et qu'il n'arrivait pas en fait à maintenir son pouvoir sur tout le pays, il a voulu s'abroger, se donner les pleins pouvoirs. Et donc il a fait un décret présidentiel en disant bon ben voilà désormais je suis au-dessus des lois. Du coup voilà forcément c'est pas passé. Il y a eu donc plein de manifs et tout ça où il y a eu plein de morts. Suite à ça, il a fait passer dans l'urgence une constitution donc qui avait été rédigée que par des Frères musulmans et leurs alliés de l'époque salafiste. Donc qui était une constitution dangereuse, mal foutue parce que faite à l'arrache, et où voilà, donc c'était possible de l'interpréter d'une manière favorable aux islamistes quoi. Et donc suite à ça, donc il y a eu tout un mouvement, donc notamment le mouvement Tamarod, donc qui s'appelait Rébellion là, qui a appelé à la destitution de Morsi. Et donc il y a eu des énormes manifs en juin 2013 avec plus de 30 millions de personnes dans la rue en Égypte, qui ont donc abouti à la chute de Morsi. Disons qu'au bout d'un moment, l'armée s'en est mêlée en disant en fait maintenant tu t'en vas parce que ça peut pas continuer comme ça, sinon on va basculer dans la guerre civile. Donc suite à ça, Morsi a été emprisonné, la plupart des chefs des Frères musulmans ont été emprisonnés aussi. Les Frères musulmans après ils ont voulu faire une campagne de désobéissance civile, ils ont occupé plein de places, il y a eu plein d'attentats de partout dans le pays. Et du coup assez rapidement il y a eu un truc de en fait il faut les réprimer quoi, du coup ils ont été réprimés violemment, il y a eu 1 million de morts
parce que pendant ce temps-là et depuis ce temps-là du coup c'est l'armée qui tient toujours les rênes de l'Égypte.
Du coup là c'est l'armée, donc à la suite de Morsi il y a eu une feuille de route qui a été mise en place, donc qui a été présentée par donc Sisi le général en chef de l'armée égyptienne, mais qui a été écrite et validée par un ensemble de forces politiques, donc de la société civile, de l'Église chrétienne et aussi le représentant de Al-Azhar, donc la plus grosse institution musulmane en Égypte, et puis des représentants de partis politiques et de mouvements de la société civile. Donc cette feuille de route là a été validée, elle a entraîné donc la mise en place d'un gouvernement civil, donc c'est un gouvernement qui est géré par ce qu'on appelle des technocrates en France, donc des gens qui sont pas forcément connectés politiquement mais qui sont là pour gérer les affaires courantes, avec un président par intérim, un premier ministre par intérim et tout ça, et qui sont là pour organiser la suite, quoi. Du coup, c'est eux qui ont mis en place cette constitution et qui vont ensuite mettre en place les prochaines élections. Mais évidemment, c'est donc l'armée a une place quand même très importante derrière ce gouvernement-là. Et c'est l'armée qui continue d'éditer plein de décrets et de fait, c'est elle qui légifère, quoi. En attendant les prochaines élections. Je me suis perdu du coup.
Et ben maintenant, on n'a qu'à peut-être. Toi, tu sais un peu ce qu'il y a dans cette constitution ?
Ouais. Cette constitution, elle diffère pas beaucoup ni de la constitution de Morsi ni de la constitution d'avant. De toute façon, c'est une constitution, c'est un peu toujours pareil. Ça dit l'Égypte est un État républicain fort, nanana, et puis ça décrit un peu la répartition des pouvoirs. Apparemment, c'est en termes de répartition des pouvoirs, c'est un peu flou, quoi. Il y aurait des trucs qui seraient incompatibles, mais bon, voilà, c'est une constitution, du coup, ça va sûrement se faire après à l'épreuve des faits, quoi. Mais en tout cas, ce qu'on peut noter, c'est donc il y a la suppression des partis politiques à connotation religieuse. Donc, c'est désormais interdit d'avoir un parti politique à connotation religieuse en Égypte. Il y a donc le fait que l'armée continue de nommer le ministre de la Défense pendant les deux prochains mandats présidentiels, donc ce qui maintient le pouvoir de l'armée au gouvernement égyptien, mais qui a toujours été comme ça de toute façon. Et aussi un truc que c'est pas possible de revenir sur le budget de l'armée qui reste sous son contrôle total et secret, du coup. Donc l'armée va sûrement continuer à s'en mettre plein les poches. Et après, donc il y a des avancées quand même importantes, donc notamment sur les questions des droits des minorités. C'est la première fois qu'il est reconnu la liberté de religion en Égypte. Pas forcément la liberté de culte, mais au moins la liberté de religion, c'est-à-dire qu'on a le droit de croire en la religion qu'on veut. C'est la première fois qu'il y a qu'on parle des minorités, par exemple des minorités bédouines ou de la minorité nubienne, avec un truc de reconnaissance que ces peuples-là existent et qu'ils ont des revendications, même si elles ne sont pas complètement abouties. C'est la reconnaissance de l'égalité entre hommes et femmes qui existait déjà, mais là qui est encore plus forte. Du coup, sur plein d'aspects, c'est quand même plutôt une constitution, on va dire, progressiste par rapport aux deux constitutions d'avant, même s'il y a donc quelques petits points qui posent un peu problème, et notamment la place de l'armée, quoi.
De toute façon, si j'ai bien compris, moi, le général en question, là, il a plus ou moins annoncé qu'il allait se présenter aux prochaines élections, non ?
Plus ou moins, c'est pas encore officiel. Ce qu'il a, en fait, ça fait un moment du coup que, vu que fort de son aura là, que les gens ont des posters de lui, et pensent à lui tous les soirs et tout ça là. Il y a ce truc de dire, comme souvent en fait, quand on est un homme de pouvoir et qu'on se rend compte qu'en fait il y aurait des chances que peut-être si on se présentait une élection, on serait élu. J'imagine que ça lui passe par la tête. Juste avant les élections, il a annoncé que si le peuple et l'armée le permettaient ou le désiraient, ou je sais plus c'était quoi la formule consacrée, il se présenterait aux prochaines élections, mais en fait, c'était aussi une manière d'inciter les gens à aller voter. En mode, si vous voulez de moi, si vous êtes d'accord avec ma présence, du coup, descendez en masse dans les rues, dans les urnes, pour voter, et du coup, si c'est ça qui se passe, je pourrais ensuite me présenter.
Un truc à la De Gaulle.
C'est ça, un truc à la De Gaulle, à la Nasser, comme on dit en Égypte. Quoi. Après, vu qu'il n'y a pas eu justement ce plébiscite, parce que certes, il y a eu 98% de oui, mais le taux de participation n'a pas été si élevé que ça, du coup, on ne sait pas encore si il va considérer que c'est justement un espèce de boulevard pour aller, vas-y, présente-toi, ou s'il va pas le faire. Après, il y a aussi ce truc où, pour le moment, il y a vraiment, on ne voit pas qui pourrait se présenter en fait. C'est l'incertitude. Je pense que la première fois que ça arrive en Égypte où on ne sait pas qui pourrait, à part lui, qui pourrait devenir président de la République. Quoi. C'est vraiment parce que pendant longtemps, on avait parlé de Al-Baradaï là, qui était un homme de pouvoir historique qui était opposé à Moubarak, mais qui en fait s'est complètement décrédibilisé l'année dernière et du coup qui est même parti du pays. Et les gens qui sont présentés aux dernières élections, c'est pas dit qu'ils aient envie de se représenter. Du coup, pour le moment, c'est vraiment le flou. Et même, on sait même pas quand vont se faire les élections, si elles vont se faire avant les élections du Parlement ou pas. Du coup, pour le moment, c'est très flou. C'est plus des effets d'annonce et des. Voilà, on n'en sait pas encore.
Et à côté de ça, c'est quoi l'ambiance en Égypte ? Parce que là, du coup, on parle des frères musulmans, on parle de l'armée. Les révolutionnaires, ils ont disparu ou comment ça se passe ? Oui, ils sont contents de la situation telle qu'elle est ?
Ils n'ont pas disparu, en tout cas, ça c'est sûr, ils sont toujours là. Ils ne sont pas contents, non, ça c'est sûr, non, aussi. Mais disons qu'il y a... Bon, déjà, ils sont divisés. On peut pas vraiment dire les révolutionnaires en général, parce qu'il y en a une frange qui est plutôt sur la tendance... contre l'armée, contre les frères musulmans, et du coup qui, par exemple, qui continuent à manifester, et du coup qui manifestent aussi bien contre l'armée et contre les frères musulmans, et qui du coup se font emprisonner assez facilement, et qui sont dans une espèce de logique comme ça jusqu'au boutiste, et on pourrait dire puriste de nous, de toute façon, tous les pouvoirs sont mauvais, et du coup on va soutenir ni l'un ni l'autre. Mais je pense qu'ils sont quand même plutôt minoritaires. Et après, moi ce que j'ai l'impression que c'est plutôt la majorité des révolutionnaires, on va dire, ou des gens qui en tout cas sont descendus dans la rue à un moment, sont dans un truc d'attente, quoi, de dire en fait là ce qui se passe c'est la guerre entre l'armée et les frères musulmans. Clairement on est contre les frères musulmans, même si on n'aime pas l'armée, mais il y a quand même un truc de dire nous en fait on veut se débarrasser des frères musulmans, s'il faut en passer par un gouvernement militaire pendant 6 mois, ben faisons-le. Et en tout cas, un truc de dire, et on va pas s'en mêler, en fait. Parce qu'on n'a pas envie de descendre manifester et de risquer de se faire tuer d'un côté ou d'un autre et d'être récupéré par un camp ou un autre. Clairement, on n'est pas là pour ça. J'ai l'impression, moi, en tout cas, des discussions que j'ai eues avec plein de gens, c'était ce truc de dire, on est prêt à redescendre dans la rue, il n'y a pas de problème, on redescendra dans la rue quand il le faudra. Mais redescendre dans la rue maintenant, c'est pas stratégique. Puisque ça veut dire se faire récupérer soit d'un côté, soit d'un autre, et on n'a pas envie de ça. Et du coup, il y a vraiment ce truc-là qui est d'attendre que la situation se soit un peu apaisée pour éventuellement repartir, ou en tout cas voir comment ça va évoluer, quoi.
Et les frères musulmans, depuis qu'ils sont plus au pouvoir, bon, quand ils sont partis, c'était de façon un peu tonitruante, en promettant un chaos incroyable et tout ça. Entre-temps, ils en sont où ? Ils sont encore, c'est encore une force, ou ils sont tous morts ou en prison ou démissionnaires ?
Ils sont beaucoup morts et en prison. Beaucoup, je pense, sont partis à l'étranger aussi. Ce qui fait qu'on en entend beaucoup parler à l'étranger, beaucoup moins sur place. Mais c'est clairement, c'est plus une force importante. Ils continuent de faire des manifs et des petites actions d'éclat comme ça, mais c'est vraiment... moi, par exemple, là, j'ai passé un mois en Égypte. J'ai jamais croisé une manif. Alors que d'habitude, on croisait toujours des manifs depuis 3 ans en Égypte. Parce que, en fait, c'est vraiment localisé. Du coup, ils ont certains bastions là où ils continuent à avoir un peu d'influence, notamment dans les universités, notamment l'université Al-Azhar, où là, ils arrivent à foutre encore le bordel. Et notamment, il y avait... En janvier, là, ils avaient cette stratégie de... Ils avaient envie d'empêcher les examens universitaires. Et du coup, ils bloquaient les facs pour pas que les examens aient lieu. Mais c'était vraiment très, très situé. Et puis, c'était quelques dizaines, quelques centaines de personnes au maximum, quoi. C'était pas les grandes foules qu'on a connues il y a quelques années, quoi.
Mais du coup, toi, est-ce que t'as l'impression, parce que moi, c'est ça que je comprends pas trop, c'est le peuple qui était dans la rue, qui a fait tomber Mubarak, puis Morsi, etc., et que maintenant, il y a cette espèce de changement de constitution, etc., est-ce que t'as l'impression qu'encore, c'est un peu leur révolution, et que c'est eux qui ont encore un peu une mainmise sur ce qui est en train de se passer, ou est-ce qu'ils l'ont perdu avec l'armée, et que du coup, ils ont plus vraiment ce contrôle de ce processus qu'ils ont essayé de déclencher en 2010-2011?
Parce que ce dont j'ai l'impression qu'il y a un fort désabusement, que c'est clair que les gens se disent on a fait la révolution et ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas fait la révolution pour être là où ils en sont aujourd'hui, que plein de revendications elles sont pas là, et que les revendications de base c'était pain, liberté, justice sociale, et que les gens n'ont toujours pas à manger, il n'y a pas des masses de liberté et pas du tout de justice sociale. Mais j'ai l'impression que ce qui a changé, c'est que le pouvoir, quelle que soit l'entité qui est au pouvoir, comprend que maintenant c'est plus possible de gouverner sans la rue. Et que c'est ça que Morsi n'a pas compris, justement. Que Morsi, il était en mode, moi j'ai été élu, j'ai la légitimité pour moi, du coup je fais ce que je veux. Et en fait, il s'est fait virer. L'armée avant Morsi, c'était pareil, il était en mode, Moubarak est parti, il nous a laissé le pouvoir, du coup c'est nous qui allons gérer le pouvoir. Ils se sont fait débarrasser. Et là, c'est sur ça que joue justement Sisi. C'est sur ce truc de dire, pour le moment, j'ai le soutien de la rue, du coup j'en profite. Et que je pense qu'il y a vraiment cette conscience que maintenant les Égyptiens ont, que s'ils veulent, ils redescendent dans la rue et ils ont ce pouvoir de virer les gens qui leur déplaisent, si jamais ils leur déplaisent. Mais pour le moment, il n'y a pas encore le divorce, en fait, entre les gens au pouvoir et la rue. Et c'est pour ça que pour plutôt la situation est calme.
Les anciens fonctionnaires et militants de Moubarak, ils sont encore beaucoup là, beaucoup à des postes de pouvoir.
Ouais. En fait, ce qu'on appelle les feloul, là, donc il y a les résidus, en français on pourrait appeler ça, les résidus de l'ancien régime, eux ils ont eu très très peur, donc au moment où Moubarak est parti, ils ont eu encore plus peur quand les frères musulmans sont arrivés au pouvoir, parce qu'ils ont cru que c'est bon, ça allait être fini pour eux. En fait, visiblement, ils sont assez bien entendus avec les frères musulmans quand même arriver à maintenir leur position de pouvoir et leur réseau et tout ça. Mais et en tout cas, eux ils ont par contre été en première ligne dans l'opposition aux frères musulmans. Puisque bon, traditionnellement, depuis 50 ans, de toute façon, le pouvoir égyptien et les frères musulmans s'opposent. Et du coup, même s'il y a eu des petits trucs tactiques à des moments, clairement, il y a vraiment un truc de haine mutuelle hyper forte. Du coup, c'est ces gens-là qui ont notamment contribué beaucoup à la campagne Tamaroud et donc à la chute de Morsi. Et c'est ces gens-là qui sont toujours au pouvoir. Mais du coup, c'est vraiment tous ces trucs tactiques-là, en fonction des moments. Du coup, pour le moment, eux, ils se sont réappropriés le discours révolutionnaire, quoi. Ils ont... un truc de dire, on a viré Moubarak parce qu'il était corrompu, c'était pas le régime en lui-même ou je sais pas quoi qu'il fallait changer, c'était Moubarak parce qu'il était corrompu. Et on a contribué, parce qu'il y a aussi toute cette discussion en ce moment, quand on parle de la révolution en Égypte, on parle plus de la révolution du 25 janvier 2011, on parle de la révolution du 30 juin 2013, qui est celle où on a viré Morsi. Et du coup, il y a toute cette réécriture de l'histoire là, de dire en fait la vraie révolution c'est celle où on a viré les frères musulmans, c'est pas celle où on a viré Moubarak. Et du coup eux, les Foulouls, ils sont vraiment là-dedans, dans ce truc de dire là on revient à une Égypte qui serait belle et stable et comme il faudrait qu'elle soit, avec donc du coup toute la structure de l'ancien régime qui reste en place, mais débarrassée des frères musulmans et de certains excès qui ont conduit à la première révolution, quoi.
Du coup, ça sent juste comme le léger aménagement démocratique, un peu ça, non ?
Oui, c'est un peu, on se donne une image un peu plus présentable. En tout cas, mais aussi c'est normal qu'en 3 ans, c'est pas possible de... Enfin, je veux dire, l'Égypte, c'est l'État le plus ancien au monde, c'est pas possible juste en 3 ans de virer tous les gens qui sont au pouvoir et de les remplacer par d'autres gens. Il faut au moins le temps que ces personnes-là se forment, rentrent de l'étranger pour ceux qui sont partis à l'étranger. Et évidemment, il y a aussi ça, en fait... Ce qui joue dans l'état d'esprit actuel, c'est cette conscience qu'en fait, une révolution, ça se fait pas en 18 jours, ça se fait pas en 1 an, 2 ans, 3 ans, et que ça prendra du temps. Et du coup, il y a aussi un truc de dire, laissons-les jouer leur jeu pour le moment. De toute façon, les jeunes révolutionnaires, ils savent très bien qu'un jour ou l'autre, ce sera leur jour, quoi. Et du coup, c'est plus sur du long terme que ça se joue maintenant.
Les associations Ahlan, Ma'alich et le collectif Pushka présentent le festival Révolution R sur les révoltes et les cultures urbaines arabes. Du 25 janvier au 11 février 2014. Projections, concerts, expo photo, table ronde, atelier calligraphie. 18 jours d'événements pour faire de Lyon une caisse de résonance aux changements en cours dans le monde arabe. Seront présents pour la première fois à Lyon Hin Medeb, DJ Figo, Boycott, DJ Sotosura, Dib, Clay BBG et Phoenix. Retrouvez toutes les infos et la programmation sur nos sites internet revolutionr.com ou sur notre page Facebook Révolution R.
Les gens qui écoutent beaucoup Canu doivent en avoir presque marre de tellement on en parle de ce festival, mais du coup on va quand même annoncer un peu le programme.
Et oui, et du coup comme on disait, on va bientôt célébrer les 3 ans de la révolution égyptienne, et pour l'événement donc il y a donc 3 associations, Ma'alich, Ahlan et Pushka, qui ont préparé un petit programme très alléchant pour les semaines à venir. Donc le festival Révolution R qui commence ce samedi avec la projection de Slingshot Hip Hop, donc qui est un film sur le hip-hop palestinien, à l'Élysée Confluence à partir de 19h. Et suite à ça, donc, c'est 18 jours d'événements autour des révoltes et des cultures urbaines arabes. Donc, avec des ateliers calligraphie, des projections de films, une table ronde, des concerts, évidemment. Voilà, plein de choses, des soirées musicales. Et avec donc la présence d'artistes qu'on fait venir de Liban, de Palestine, de Tunisie, d'Égypte. Donc, il y aura Dib, Clay BBG, Phoenix, DJ Sotosura, Boycott. Qui seront là principalement. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce festival. Et en parallèle de ça, il y a également, on profite en fait que ces artistes soient là pour qu'il y ait une autre soirée d'organiser, pas dans le cadre de ce festival, mais quand même. Avec DJ Sotosura, Boycott, Ramsès, donc qui sont des artistes de Liban, Palestine. Il y aura Refugees of Rap aussi, donc des Syriens. Et puis sûrement d'autres invités. Et donc ça, ce sera le samedi 1er février dans un lieu à Lyon. Si ça vous intéresse, il faut écrire à Capouche. Donc vous trouverez toutes les infos sur internet, je pense sur Rebellion, sur Facebook et tout ça, pour ce concert. Et ah ouais, je voulais aussi dire un truc puisqu'on est dans les infos. Il y a un artiste tunisien qui s'appelle Cafon, qui fait partie de cette vague de gens là qui se font emprisonner parce qu'ils ont des paroles anti-régime. Il passait en procès en appel aujourd'hui. Sa peine de prison a été validé, du coup il va rester 1 an de plus dans les prisons du pouvoir tunisien.
Parce qu'il fumait du shit, si j'ai bien compris.
Officiellement, c'est ça. Mmh.
Alors, qu'on précise quand même hein, qu'une partie de ces stars du monde arabe vont être sur Radio Canu. Pendant l'émission Arter du vendredi 31 janvier, peut-être ?
Peut-être, non, on espère.
Peut-être. Dans tous les cas, le lendemain, le samedi 1er février à midi sur Canu, il y aura plusieurs de ces rappeurs qui seront interviewés. Le samedi 8 février aussi. Et le jeudi 30 janvier à 14h, nous aurons Hind Medeb qui est...
Alors Hind Medeb, c'est une journaliste, réalisatrice, militante tunisienne, mais qui a grandi au Maroc et en France. et du coup qui a fait plein de films pour parler un peu des mouvements underground dans le monde arabe, qui est proche de toute cette bande de rappeurs tunisiens menacés par le pouvoir, et qui viendra notamment présenter son film Electro Charbi, donc un film qui parle d'un mouvement musical égyptien.
Revolution, influenza, bébé j'did man, c'est le phénix.
Mais allez, une petite météo quand même.
Ouais. Pour clôturer ce Canu Info. Et ben vous l'aurez remarqué, le froid et l'humidité ont gagné Lyon et une bonne partie de la France.
Nos morales aussi. Hein.
Vos morales aussi. Bon, le mien un petit peu. Ouais. Et ben si ça peut vous remonter le moral, c'est pas prêt de changer. Demain il va pleuvoir, le ciel sera bien couvert, en gros on n'est pas prêt de voir le soleil, et les températures iront de 4 degrés le matin à 9 degrés l'après-midi. Vendredi, les températures chutent nettement, on aura 1 degré le matin et 4 degrés l'après-midi avec des petits risques de giboulées. Samedi, le beau temps arrive par l'est mais n'atteint pas Lyon. Malheureusement.
Ça, je crois que c'est vraiment pour te souhaiter un bon retour d'Égypte.
Ouais, c'est ça. Et bon, au niveau du ciel, ce sera pareil que jeudi et vendredi. Et on aura des températures le matin. Alors attention aux givres pour celles qui prennent la voiture, ou même si vous descendez à pied de votre trottoir, par exemple. Avec moins 1 le matin et 6 degrés l'après-midi. Et on espère pour le dimanche une amélioration avec ce beau temps qui nous vient de l'est.
Mais vous pouvez toujours aller vous réchauffer au Festival Révolution.
Allez, ça va être le moment de passer l'antenne à l'émission Idée Noire, l'émission de la Confédération des groupes anarchistes.
Ciao. On se retrouve la semaine prochaine.
Ciao, bonne soirée. Salut.
هوني باسط عرضو يدزلك سامر الوفي يستفزك هوني فينكس يمزك تسمع فرواقة واش تلزك شكرا منا هوني فيه جانب عنيمو زرمي متعلى سيتي كيف ما خرجك ويبنو واتش هنمي زيري مينو كاوو واتش هنم فينكس في ديك لا تموت والي ما هوني ما تزيد معايا كلمة انفلونزا 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 انفلونزا